Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. J'ai intitulé la séquence d'aujourd'hui « Des bals et des fêtes, hier, en basse marche ». Nous allons nous centrer sur les bals d'hiver et en particulier ceux de fin janvier qui sont les bals des maçons et des paveurs migrants de la basse marche. Lorsqu'on parle des bals de la basse marche d'hier, on pense aux bals populaires et même à l'expression des bals musettes. Ce nom de bal musette vient de la musette ou de la cabrette, qui est un instrument de musique constitué d'une poche d'air et d'un tuyau muni d'une hanche double. Au XIXe siècle, un bal musette était donc un bal qui comportait au moins une musette, une cabrette dans l'orchestre. Certes, il jouait des bourrées, mais aussi des valses, des scottiches, des polkas, des marches, des galops, des mazurkas. Par la suite, sous l'influence italienne, c'est le son de l'accordéon qui remplacera la cabrette pour symboliser le bal musette. Après la Première Guerre mondiale, on voit apparaître de nouvelles danses venues d'Amérique comme le foxtrot, ou d'Amérique du Sud comme le tango, mais encore la java, le paso doble, la rumba, le boléro et bien sûr la valse musette. Le bal, ces danses, ne sont pas de simples loisirs. Mais nous le verrons, particulièrement en basse marche, c'est un moyen pour la jeunesse de se retrouver et de se confronter. C'est le moyen pour les garçons de montrer leurs muscles et pour les filles, leurs toilettes. Quant aux mères accompagnatrices, elles pourront surveiller et papoter. Bien sûr, pour les garçons et les filles, c'est l'occasion de se rencontrer et d'imaginer de futures épousailles. Nous y reviendrons plus tard, nous consacrerons une chronique au mariage hier en basse marche. Pour les textes de la chronique d'aujourd'hui, j'ai utilisé les ouvrages de Louis Peignot, Bergère, éternelle bergère, de Germaine Bariteau, propos sur les vieilles coutumes de la basse marche, de Jules Marouzeau, une enfance, et d'Albert Guillon, son ouvrage, notre Cédelle.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Voici comment Louis Peignot, dans Bergère éternelle bergère, nous parle des bals le jour de la fête de la Saint-Pardoux. Après les jeux de la fête foraine, venaient les joies plus délicates et plus troublantes de la danse. Dans toutes les auberges, on dansait, là au son des violons, ailleurs au son de l'accordéon. Des bals restaient presque vides alors qu'on s'écrasait dans d'autres où des musiciens renommés tenaient l'orchestre. Serrées les unes contre les autres, les mères faisaient tapisserie sur les bancs tout autour de la salle, suivant de l'œil les couples qui tourbillonnaient. Les lampes à abat-jour pendues aux solives éclairaient tout juste le vaste rectangle du bal qui, par instant, se vidait de ses danseurs. Quand les musiciens attaquaient une polka, une scottiche, la chèvre bure, la jasse ou la fille de la meunière qui a perdu sa jarretière, alors c'était une ruée des couples dans la salle. On ne dansait pas, on s'écrasait les pieds, on se bousculait dans un nuage de fumée bleue, tandis que les murs ruisselaient de sueur autant que les danseurs. Mais quand venait la mazurka et la valse brune, les chevaliers de la lune, alors la salle respirait. Une dizaine de couples à peine osaient affronter les regards des rangées de spectatrices, dont les langues ne chômaient pas. Les bons valseurs étaient connus, on se pressait au premier rang pour les voir tourner. Louis Peignot nous dit que dans ces bals, on ne dansait pas, on s'écrasait les pieds, et c'est ce que nous confirme Germaine Bariteau dans un curieux récit de l'Obuero Pila, le grand bal de Château-Pontsac, qui était célébré le 29 janvier de chaque année, jusque vers les années 1930. Voici de très larges extraits de son récit. La Bouéropila, c'était une des deux fêtes de Château-Pontsac, celle dont Saint-Thyrse était le patron et qui était célébrée le 29 janvier. Elle n'était jamais reportée au dimanche suivant. Elle se trouvait à peu près au milieu de l'hiver, époque à laquelle elle devait sa raison d'être. Le matin avait lieu une messe ordinaire. L'après-midi et en veillée, un bal comme les jours de foire. Mais alors que les jours de foire, une jeune paysanne se respectant devait quitter le bal de bonne heure et rentrer avant la nuit, sinon gare aux représailles, le jour de la Bouéropila, elle avait l'autorisation de danser jusqu'à minuit, le bal étant surtout fréquenté le soir.
Aussi ma mère n'a avec que moi d'enfant.
Mon père aussi ma mère n'a avec que moi d'enfant.
N'avec moi d'enfant la destinée la rose au bois. N'avec moi d'enfant, n'avec moi d'enfant.
N'avec moi d'enfant, n'avec moi d'enfant.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Le soir de ces 29 janvier, vers 7 heures après le souper, par les chemins sillonnés d'ornières gelées ou couverts de neige ou de boue, la jeunesse des hameaux s'en allait vers la petite ville, faisant résonner les sabots de bois sur le sol durci, ou talochant à qui mieux pour se défaire des tenaces bottes de neige adhérant aux semelles de bois. Les garçons, en costume limousin, blouse bleue et gonflante, chapeau noir à large bord, foulard bariolé, petite cravate noire sur la chemise de grosse toile, répondaient aux joyeux hifoufou, poussés par d'autres joyeux paysans allant par d'autres chemins. Les jeunes filles étaient accompagnées de leur mère, qui, munie de lanternes à la flamme tremblotante, éclairait tant bien que mal les difficultés des sentiers. Toutes, mères et filles, frileusement encapuchonnées, portaient d'amples capotes, capotes de bergère en droguet gris pour les unes, capes en fin cachemire noir et bordées d'une large bande de velours pour les autres plus riches. Sombres silhouettes sur la neige blanche, mais cœur gai. En chemin, la pluie et la neige pouvaient tomber en rafale, la bise souffler et siffler dans les arbres nus, rien ne pouvait modifier les projets et la vive allure de nos intrépides danseuses. Il fallait, coûte que coûte, arriver le plus tôt possible. Une telle soirée était si vite passée. Malgré tous les obstacles rencontrés, et surtout en se pressant sous les futaies sans feuilles, dans chaque groupe on riait, on se taquinait, on invoquait les plaisants souvenirs des bals précédents de cette fête, on parlait de la chance des unes, des ennuis des autres, etc., etc. Arrivées au café, dans une chambre mise à leur disposition, elles quittaient rapidement leurs sabots lourds et boueux et prenaient des socques propres et plus légères, portées dans de jolis petits paniers à couvercle en osier noir ou marron. Après avoir déposé ou confié à leur mère leurs encombrantes mantes, elles apparaissaient au bal toutes fraîches, jolies et fringantes, la taille dégagée dans leurs longues robes bleues, vertes ou marron, aux jupes froncées et au corsage plus ou moins ajusté. Coquettes, elles avaient enjolivé ce corsage par nos civignaux. C'était une broche achetée au colporteur et par des boucles d'oreilles en or et même par un long sautoir en argent retenant une montre passée dans la ceinture de la jupe. Elles portaient toutes le dvancha, tablier noir ou à fleurs, en soie ou en coton, et arboraient en ce jour de fête la coiffe en mousseline blanche, au fond merveilleusement brodé, au bord finement plissé ou tuyauté par la repasseuse de la ville. C'était une sorte de petit bonnet, bien différent du luxueux barbichet, pourtant en usage tout près à Saint-Pardoux ou à Saint-Symphorien-sur-Couze. « Vers 1900, nous dit Germaine Barito, il y avait deux bals en ce jour de fête, l'un au café D et l'autre au café G. Quoique ces deux bals fussent ouverts à tous, l'un d'eux était fréquenté principalement par les paysans, les campagnards, les taulards, ainsi appelés par les vilots, se moquant de leurs bruyants sabots, sabots plus lourds que les souliers ferrés, peut-être, mais pas tellement lorsqu'ils étaient creusés dans un beau bois de noyer. De toute façon, tout en marquant bruyamment le pas, ils n'empêtraient pas leur propriétaire pour virer la valse. L'autre bal était fréquenté plutôt par les vilots et les vilaudes, ainsi que par quelques paysans et paysannes d'une classe plus élevée. Du point de vue social, les citadins comprenaient la classe ouvrière et la bourgeoisie. Cette dernière n'était représentée dans les bals du 29 janvier, comme d'ailleurs dans les autres bals populaires, que par le sexe masculin. Les plus évolués de ces vilots par les Français. Ils étaient plus chics, dirait-on aujourd'hui, avec leurs vestons et leurs souliers montants. Ils ne portaient pas de foulard. Quant aux vilaudes, leurs toilettes étaient à peu près les mêmes que celles des paysannes, pas de sabots, mais des socques et des bottines à boutons. Si les publics sont différents dans ces deux bals, les musiques sont également différentes. Dans le premier, au son de la vielle, de la clarinette, parfois de la chabrette ou du violon, on dansait sans façon, scottish, mazurka, valse, quadrille, bourré, polka piqué, polka. Tiens bon, Marie-Madeleine, tiens bon, Marie-Madelon. Mais dans le deuxième, ce sont les mêmes danses, avec cependant des manières se voulant plus raffinées. Et Germaine Barito de nous indiquer qu'on trouvait la même différence à Bessines, où en 1920, le bal de la mairie était surtout pour la jeunesse de la ville. On y dansait d'autres danses, comme le pas des patineurs ou le tango. La jeunesse des campagnes, elle, se trouvait plus à l'aise dans les bals des auberges de Bessines, où les garçons ne craignaient pas de crier et les jeunes filles de s'asseoir sur les genoux de celles ou de ceux qui occupaient les bancs.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
À Saint-Pardoux, les deux bals coexistaient dans le même hôtel, l'hôtel Jouanneau. Au rez-de-chaussée, un bal avec un accordéoniste à dessous la danse, et à l'étage, un deuxième bal, plus grand, tenu par deux violonistes renommés, les frères Michaud de Rancon, à trois sous la danse. Et l'auteur d'ajouter, on se plaisait cependant dans ces bals justement parce que la foule y était tassée, on s'y écrasait les pieds, on piétinait plutôt qu'on ne dansait, on s'y bousculait, on s'y portait, on y était brassé. Autrement dit, on y était bouéri et pilei autant que les grains de millet dans le pile millet et que le pila pendant la cuisson. D'où le nom de l'obuero pila que l'on donnait au bal de ce 29 janvier.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Au bal de la Buero Pila, il les marquait. Entendons-nous, les garçons marquaient les filles. Et pour cette opération, nous dit Germaine Barito, les garçons procédaient d'une façon vraiment sans gêne. Un coup de ciseau donné dans les vêtements et le tour était joué. Le préjudice n'était pas trop grave quand il s'agissait de quelques franges d'un châle, d'un bout de dentelle, ou d'un bout de ruban ou de coiffe. Marquer de cette façon, disait-on dans ma famille, était plutôt une plaisanterie, une taquinerie, peut-être aussi une tactique d'amoureux, désireux d'attirer l'attention d'une jeune coquette, un moyen de piquer au jeu une riche héritière à qui on aurait bien voulu faire la cour. Parfois, les mœurs étaient plus barbares et certains amoureux éconduits n'hésitaient pas à couper sans hésiter un châle, une robe et même une cape. Dans ce cas-là, la victime, humiliée et exposée à d'impitoyables railleries, quittait le bal avec sa mère. Une coutume identique existait à La Souterraine, écrit Albert Guillon dans Notre Cédelle, coutume toujours en vigueur dans les années 1950. c'est de marquer les filles d'un trait à la craie sur les vêtements. Le 27 septembre, jour de la dernière foire de l'année, appelée aussi la foire du marquage. On voit quand même que les pratiques étaient plus douces à la souterraine qu'à Château-Ponsac. Dans les deux cas, le long des murs ruisselants, les mères étaient debout sur les bancs afin de ne pas être étouffées dans cette atmosphère de sueur et de poussière, à moins que ce ne fût pour mieux voir et ne pas perdre de vue leur fille. Ainsi perchées, elles dominaient tout le bal, rien ne leur échappait et les langues allaient bon train. Jules Marouzeau, l'écrivain de Flora dans l'ouest de la Creuse, dans son roman « Une enfance », nous explique. Il y avait bal dans la salle, les soirs de fête et de noces. Le bal le plus couru était celui de la Saint-Antoine en janvier. Les maçons étaient rentrés de Paris, les filles apportaient des noisettes des champs qu'on croquait entre deux danses et les coquilles crissaient sous les socs à semelles de bois. Beaucoup de noisettes, c'était abondante naissance de filles dans l'année. En hâte de nousilles, en hâte de filles. Les musiciens arrivaient les premiers et traversaient la cuisine quand nous étions encore à table, important et saluant à peine leurs prestigieux instruments sous le bras. Puis, entraient des groupes de jeunes filles timides se poussant pour entrer comme des brebis. En passant la porte, elles rabattaient sur leurs jupons blancs la jupe blanche qu'elles avaient, en marchant, relevée par-dessus la tête pour la préserver de la boue des chemins. Enfin, les jeunes gens, chapeau sur la nuque et cigarettes à l'oreille, arrivaient par village. Assises sur les bancs autour de la salle, les mères gardaient sur leurs genoux les châles des danseuses, les filles, cheveux hermétiquement enfermés dans des bonnets ronds à fond brodé, taille plate, serrés dans de larges ceintures de soie claire, sautaient et viraient tout d'une pièce à la volonté des danseurs. À Château-Ponsac, comme à Flora, le bal de fin janvier était bien lié aux maçons migrants. Les jeunes maçons étaient revenus au pays depuis quelques semaines, ils repartiraient en mars dans quelques semaines. Donc, ce jour-là, 29 janvier, nous dit Germaine Bariteau, le bal de la mi-hiver, il était encore temps de se décider. Avant le départ pour les Saintonges, pour Bordeaux ou pour Paris, départ que les grues annoncerait bientôt, il restait tout de même suffisamment de jours pour procéder aux formalités, aux longs préparatifs et aux nombreuses invitations annonçant les futurs accordailles. Mais plus une minute à perdre. Et signe sérieux d'accordailles, ce soir-là, si elle était consentante, la jeune fille acceptait en compagnie de sa mère de prendre dans la salle du café une boisson avec le futur. Parfois, le mariage ne pouvait avoir lieu avant le prochain printemps, il était alors remis à l'hiver suivant. De toute façon, la jeune fille était retenue. On peut alors supposer que l'expression « en marquer une » avait un sens bien précis, le sens de « faire son choix » qui implique l'idée qu'un but était à atteindre, garder la jeune fille pour soi. Finalement, en marquer une, c'était un peu comme les bouchers qui, sur le champ de foire, marquaient d'un coup de ciseau la bête qu'ils venaient d'acheter.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
La mode de la Buero Pila se poursuivra à Château-Ponsac jusque vers les années 1930. Au début du XXe siècle, on pouvait relever quelques changements. Sur l'estrade, plus confortable, le violoneux et le chabretaire étaient remplacés par de vrais musiciens qui, jouant à l'aide de notes, soulevaient l'admiration. Deux violonistes de rencontre et réputés, deux saxophones, louent Saint-Amand. Les garçons ne portaient plus la blouse ni les sabots de bois et les filles copiaient la mode de Paris apportée par les jeunes épouses des maçons qui, maintenant, souvent, accompagnaient leurs époux à Paris où elles travaillaient. En 1914, la coutume s'interrompit, elle reprit avec la vie normale dès 1920. Les garçons partirent de nouveau aux maçons, à Paris et dans les pays envahis. Vers 1930, le bal de la Buero Pila n'eut plus lieu et seule l'expression « en marquer une » est restée. Comme elle avait dépassé les limites de la commune, il n'est pas rare, nous dit Germaine Barito, en 1968, dans nos campagnes de Saint-Pardoux, de Saint-Symphorien, de Bessines, de Mortrolles, de Château-Ponsac, d'entendre parfois, par exemple, pour encourager un garçon au mariage, « il est temps pour toi d'en marquer une ». Merci de nous avoir suivis pour cette chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche que j'ai intitulée « Des bals et des fêtes hier en Basse Marche ». Pour les textes, nous avons utilisé les ouvrages de Louis Peignot, de Germaine Barito, de Jules Marouzeau et d'Albert Guillon. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel aux musiciens Georges Villard, Charles Johnson, Van Zaventem et au groupe La Bottine Souriante, 21 Boutons, Maluzerne et 11 Détents que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse Marche. À très bientôt donc. Et très bonne semaine à vous tous.
La Basse Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.